personne de payer addition. Je n'étais qu'un homme de paille, mais je crains des représailles. Que j'aille. Sous un chapeau de paille, je siffle un jus de papaye avec paille.
Et c'est Seigneur le quoi?
J'ai gardé de mes batailles croix gammées et médailles en émail. Toujours ces couillons qui parlent d'extraire des sommes. Mais pour moi, pas question de payer la décision.
Et ce Seigneur le boy,
j'ai ici de la canaille qui m'obéit au doigt, à l'œil et à l'œil.
Ça sent le générique de fin. Petite musique.
Et c'est l'été.
C'est les vacances.
C'est les vacances. Vous avez eu votre bac, vous, ou pas?
On n'a pas encore les résultats.
Oui, moi, je vais trop rattrapage comme l'année dernière, je sens.
Oh, putain. Non, mais on est là pour t'aider.
Moi, je l'ai pas tenté cette année.
Vous faites quoi, alors, cet été? Vous avez des plans, là?
Bah, Coupe du Monde.
Ah oui, c'est vrai, c'est...
Il reste 3 semaines quand même.
Ah ouais, c'est quand même.
Ouais, je vais aller à la plage à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ah ouais, on m'en a parlé il y a pas longtemps. Ça a l'air sympa.
T'as la ligne?
Comment?
T'as la ligne?
Bah,
il faut être.
Qu'est-ce t'en penses?
La ligne? Bah là, je sais pas, je suis à la radio.
Mais ouais, je sais pas, ouais. Non, bah, je pense que je suis pas mal, quoi. Je suis pas mal. Je nage 8-10 km tous les 3 jours. Je remonte la Saône, en fait.
Je viens de recevoir un mail de Louise Canu, la patronne de la radio. J'ouvre ce mail.
Ah, vas-y, dis-nous.
Chère équipe de Mégacombi, nous avons le plaisir de reconduire votre émission à la rentrée. Vous pourrez donc reprendre l'antenne dès le mercredi 3 septembre.
Ah, bah, yes, ça tombe bien.
On a eu chaud, hein.
Ouais, ouais. Ah ouais, ça a été limite, hein, cette année quand même. Hein.
Mais du coup, cet été, pas d'émission, quoi.
Bah non, mais vous pouvez réécouter sur le blog.
Et puis vous pouvez aussi découvrir les bandes continues de Radio Canu le mercredi à 18h.
Les merveilleuses bandes. Au 3 septembre.
Ouais.
Ouais, 3 septembre.
Mégacombi, Radio Canu. Oh là là là, Canu. C'est magnifique. Toute la journée, moi j'écoute cette radio. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et toi Virginie, toi dis-moi quel nom de radio t'écoutes. Oh là là là, Radio Canu,
c'est magnifique.
Et toi Fabien, dis-moi quelle radio tu écoutes. Nous sommes heureux, très heureux d'être interviewé. Oh là 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 là, c'est magnifique. Avec la Radio Canu, Radio Combi. Oh là 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 là, c'est magnifique. Nous sommes ravis de passer cette soirée. Vive la SCAM. Oh, c'est magnifique. Les gens sont adorables. Et puis c'est la radio qu'on écoute, c'est bien entendu Radio Canu.
Il est 19h sur Canu.
Sachez que ce journal est réalisé uniquement par des personnels non grévistes.
phénomène qui inquiète beaucoup l'Élysée. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement? Le magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
All your callers a diamond fella. All your little ways of a comedy of errors. You bellow with your fellows, get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a cello. You, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, the tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Montague, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, the ends well. Your ways like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You want to do about nothing, all you do is bite it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, Prince of Tyre. Off the scale, cold as a winter tale. Tight as Andronicus was bound to fail. So will you ever call...
Bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info. Il est 19h passé de 2 minutes, mercredi 25 juin.
Avec ce soir, Babylou, la Cour de cassation confirme le licenciement de Fatima Afif.
Ensuite, le Premier ministre irakien qui a bien des soucis.
Occupation de l'INRA à Lyon, c'est par les faucheurs volontaires.
Ensuite, on va parler de l'occupation des intermittents à l'Opéra de Lyon.
Et puis l'Assemblée nationale a finalement voté l'éclatement de la SNCF.
Ensuite, grève chez les salariés de la professionnelle du nettoyage à la direction régionale de la SNCF.
Une piscine dans un appartement squatté.
Ensuite, des sous-traitants de Carrefour esclavagistes.
Bavure policière à la guillotière.
Ensuite, on ira à Vincennes, vers Paris, où on a le rendu du procès suite aux révoltes du 14 février.
Notre-Dame-des-Landes, encore une fois, c'est vraiment que des terroristes par là-bas.
Ensuite, le monde de la nuit, la police parisienne fiche la moralité des patrons de bars et de leurs clients.
Waouh. Et puis voilà, et puis après c'est une petite météo à condition qu'on ait le temps.
Et donc je commence.
Ah pardon, j'avais un en bref.
Ah vas-y.
Et ben voilà, bon après n'importe qui aurait pris des infos n'importe où depuis 24 heures est déjà au courant, mais c'est pour ça qu'on fait un peu rapidos. Peut-être qu'on va finir par avoir un petit peu plus la possibilité de mourir comme on a envie, quand on a envie, tout ça dans ce pays. En tout cas, il y a deux décisions de tribunaux hier qui sont allées dans ce sens-là. Il y en a une, c'était le Conseil d'État qui a dit que ce Vincent Lambert là, qui est dans le coma depuis des années et des années, qui a vraiment aucune possibilité, de la moindre chance de s'en sortir, et une partie de sa famille voudrait le débrancher, une autre partie voudrait pas. La partie qui voudrait pas, c'est plutôt ses parents qui sont catho-intégristes. Et hier, le Conseil d'État a dit non, mais cette fois-ci, oui, ça serait pas mal de le débrancher. Alors, en l'occurrence, pour l'instant, il est quand même encore vivant. Enfin, vivant, c'est un bien grand mot, parce que ses parents ont directement fait appel à la Commission européenne, à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a dit oh là là, on suspend la décision en attendant de statuer. Donc, pour l'instant, voilà, il y a ce truc suspensif. On verra ce que la Cour européenne des droits de l'homme en dira. En tout cas, pour ce qui est de la justice française, ça paraît plutôt possible de le débrancher. Ça, c'était la première décision. Et la deuxième, c'est ce docteur Bonnemaison, qui lui a fait des injections létales à des vieux qui étaient en train de mourir. pour accélérer ça. Là, la différence, c'est qu'il a pris la décision tout seul, sans consulter ni ses collègues, ni les familles. Mais bon, enfin, dans un truc qui était visiblement un truc d'arrêter leur souffrance, quoi. En tout cas, il y a eu un procès un peu long, un peu médiatique, et hier, il a été tout bonnement acquitté. Ça, c'était plutôt extraordinaire. Personne s'y attendait. On s'attendait à ce qu'il soit peut-être dispensé de peine, ou peut-être condamné à des peines symboliques. Mais là, il a été complètement acquitté.
Mais qu'est-ce que tu fais de la justice divine dans l'histoire ?
Ah, et ben ça, on verra plus tard s'il est acquitté ou pas. Quand il sera mort, et nous aussi, pour avoir la publication.
Alors, Babylou, la Cour de cassation confirme le licenciement de Fatima Afif. Donc, dans un arrêt rendu public en début d'après-midi aujourd'hui, les juges ont rejeté le pourvoi de la salariée virée en 2008, car elle refusait de retirer son foulard au sein de la crèche. Donc, c'est presque 6 ans de bataille judiciaire et autant de décisions souvent contradictoires. Et là, la Cour de cassation a écrit un point presque final, et cette crèche associative créée en 91, donc Babylou, dans un quartier populaire de Chanteloup-les-Vignes en Yvelines, et donc dans cet arrêt de 21 pages de la cour a validé le licenciement pour faute grave. Donc en gros, elle perd son procès. Donc c'est une procédure qui a été engagée en 2008, car celle-ci refusait de retirer son voile. Et la question en jeu dans cette histoire est encore une fois la laïcité, comme depuis plein d'années. Et même si cette crèche n'est pas publique, une de ses valeurs se base sur cette notion. Donc pour justifier ce licenciement, la directrice de Babylou, Nathalie Baleato, avait invoqué la neutralité philosophique, politique et confessionnelle inscrite au règlement intérieur de la crèche. Donc l'argument qui a été retenu hier par l'assemblée plénière de la Cour de cassation. Et pourtant, dans un arrêt de mars 2013, la chambre sociale de cette même Cour de cassation avait donné raison à Fatima Afif, estimant que, s'agissant d'une crèche privée, son licenciement constituait bien une discrimination en raison de ses convictions religieuses. Bref, en tout cas, peut-être je vais pas tout lire dans les détails, mais ce qu'on voit et qui pèse dans la balance dans toute cette histoire qui dure depuis un moment, c'est d'un côté une société raciste et qui a du mal à s'ouvrir à des formes d'intégration de différentes personnes, et un truc autour de défendre des valeurs de laïcité. Et une autre histoire, c'est retour sur la loi française anti-burqa, une loi raciste. Et du coup, le 1er juillet prochain, les juges de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est toujours pompeux leur titre, annonceront leur décision dans le procès d'une Française contre l'État français. Donc cette femme de confession musulmane a décidé de saisir la cour de Strasbourg après avoir reçu une décision de justice lui interdisant de porter le voile intégral dans les lieux publics. Donc la décision s'appuie sur une loi sur la burqa entrée en vigueur donc en avril 2011, qui dispose qu'il est interdit de dissimuler son visage en public. Donc la plaignante, elle, est musulmane pratiquante, porte la burqa et le niqab occasionnellement. Elle demande à pouvoir porter ses vêtements lorsqu'elle le souhaite et où elle le souhaite, et précise que son objectif n'est pas de déranger autour d'elle, mais de se sentir en harmonie avec elle-même. Elle a formé sa requête en s'appuyant sur plusieurs articles issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'article 3, donc l'interdiction des traitements humain ou dégradant. L'article 8, droit au respect de la vie privée et familiale. L'article 9, liberté de pensée, de conscience et de religion. L'article 10, la liberté d'expression. L'article 11, liberté de réunion et d'association. Et l'article 14, interdiction de discrimination. Bref, elle a envoyé le paquet pour essayer de gagner, on verra, le 1er juillet. Elle explique pouvoir être victime d'actes de harcèlement et de discrimination si elle encourt la sanction imposée par la loi française sur la burqa. Elle dit aussi que la décision française ne fera qu'accroître la discrimination homme-femme, ainsi que la discrimination basée sur la religion et l'origine ethnique au détriment des femmes qui portent le voile intégral. Enfin, elle affirme que l'interdiction de porter le voile intégral en public est contraire à sa liberté de manifester sa religion ou sa foi de façon individuelle ou collective, en public ou en privé, par le biais du culte, de l'enseignement, de la pratique et de l'observation des rites.
Radio Canu.
Oui, bon. Alors, alors en Irak, c'est ça. Le Premier ministre Nouri al-Maliki a bien des soucis. Une pluie d'accusations s'est abattue sur lui après la déroute des forces gouvernementales face à l'offensive de ce truc qui s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant, donc des djihadistes et de ses alliés sunnites, les alliés de l'État islamique en Irak et au Levant. Voilà, alors ce Nouri al-Maliki était sorti vainqueur avec son parti des élections du 30 avril dernier, mais alors qu'il est, il n'est plus très assuré de réunir autour de lui une coalition qui lui permette de briguer un troisième mandat, et il y a de plus en plus de monde qui veulent le virer, que ce soit à l'intérieur du pays ou que ce soit à l'extérieur, et qui l'accusent d'avoir mené le pays à l'impasse. Une impasse dont l'Irak ne risque pas trop de sortir uniquement par voie militaire. En tout cas, c'est ce que pense, bon, entre autres, hein, mais le secrétaire d'État américain John Kerry, qui est passé lundi à Bagdad, et qui a demandé à M. Maliki de former un gouvernement d'union nationale, après avoir souligné la veille que sa pratique du pouvoir avait provoqué le mécontentement parmi les Kurdes, parmi les sunnites et une partie des chiites, qui les chiites étant majoritaires en Irak. Mais du coup, c'est un des trucs qui visiblement est en train de se passer en Irak, c'est une sorte de retour en force de l'identité religieuse comme vraiment un marqueur entre les gens, quoi. Et donc visiblement, tout ça dû en grande partie à la politique de ce Nouri al-Maliki qui est au pouvoir depuis 2006. Alors, donc voilà. Donc John Kerry, et il n'est pas le seul du coup, un peu en gros, les Occidentaux poussent al-Maliki à créer un gouvernement avec, en y faisant rentrer plein de monde, c'est-à-dire en s'ouvrant un peu. Et bon, lui aujourd'hui, il a dit qu'il n'en était pas question, il veut continuer à gouverner l'Irak seul et il espère une victoire militaire qui lui permettrait de rester à son poste. Donc voilà, ce Maliki, depuis 2006 qu'il est au pouvoir, il s'est petit à petit recroquevillé sur sa base électorale chiite. Il a mené une politique autoritaire et sectaire, et en particulier au détriment des Kurdes et des sunnites. Dans la communauté sunnite, qui compose 35% de la population irakienne, il a commencé par y avoir une sorte de mouvement de contestation qui était pacifique au départ, et puis qui a été réprimé, et réprimé férocement. Et du coup, s'est transformé en mouvement armé, et c'est une partie de ces gens qui font aujourd'hui que ce truc de l'État islamique en Irak et au Levant fonctionne, trouve du monde à recruter. Nouri al-Maliki ne s'est pas seulement aliéné les communautés sunnites et kurdes, puisque les plus violentes critiques à son encontre émanent de la communauté chiite. C'est-à-dire des gens qu'il est censé le plus représenter, qu'il assume de représenter. Lors des législatives d'avril, plusieurs formations se sont prononcées contre sa reconduction, donc plusieurs formations chiites. L'ayatollah al-Sistani, qui est le plus haut dignitaire chiite du pays, ne ménage pas ses critiques envers le Premier ministre, et depuis plus d'un an, l'ayatollah refuse même de recevoir les émissaires de Maliki. Et le 20 juin, il y a 5 jours, là, il a adressé une critique au gouvernement en appelant à la formation d'un gouvernement efficace qui évite les erreurs du passé. Voilà, pendant ce temps, dans l'ouest du pays, les djihadistes, donc de l'État islamique en Irak et au Levant, viennent de conclure un accord avec le Front al-Nosra. Ils ont fait ça dans la nuit d'avant-hier à hier. Et ce qui veut dire, dans la situation militaire présente, en gros, qu'ils avaient chacun un poste frontière d'un côté de la frontière entre l'Irak et la Syrie. Donc maintenant, ils ont la frontière et ils font un peu ce qu'ils veulent dans ce coin-là. Et visiblement, ils contrôlent une sorte de zone qui est une sorte de bande de terrain autour de la frontière et dans, qui serait un peu le noyau de l'État islamique qu'ils veulent créer, quoi. Et alors, les Américains dans cette histoire, eh ben eux qui ont viré Saddam Hussein jadis, tout ça, qui ont soutenu Maliki en 2006, qui l'ont resoutenu en 2010, cette fois-ci, ils ont l'air nettement moins enthousiastes. Alors, il semble que ça soit en partie dû au fait que Maliki est vraiment, vraiment merdé. Et puis en partie parce que peut-être ils font un peu moins les malins petit à petit en Irak. En tout cas, Maliki l'aura vraiment demandé d'envoyer des troupes, l'aura demandé et redemandé de façon insistante. Ils ont dit non. Et ils vont envoyer des conseillers militaires. Il y en a 40 qui viennent d'arriver là. Et il devrait y en avoir 300 en tout. Mais en tout cas, pour l'instant, la position américaine, c'est qu'il n'y aura pas de troupes pour arrêter les djihadistes. Slave is lost, a woman on her own. She needed two gentlemen of her own. This is ill estate and I am the owner.
Alors, des faucheurs volontaires ont occupé tôt ce matin les locaux de l'INRA. L'INRA, c'est l'Institut National de Recherche Agronomique, situé dans l'ENS. L'ENS, c'est l'École Nationale Supérieure à Lyon, et les ont quittés à 16h30. Ils étaient une trentaine et voulaient dénoncer le projet Genius de l'INRA qui porte sur la recherche de plantations OGM, recherche qui date de 2012, sur 8 variétés dont le blé, le maïs, le riz, le colza, les tomates, des pommes de terre, etc. Bref, plein de denrées qui sont destinées à la consommation de l'homme. Les faucheurs volontaires accusent l'INRA de ne pas s'arrêter à faire de la recherche fondamentale, mais bien de rechercher à produire de nouvelles variétés pour breveter des plantes génétiquement modifiées, semences qui seront un jour plantées dans nos champs. Il dénonce également que cette recherche soit en partie financée par l'État et donc dénonce le fait que l'État investisse de l'argent dans les recherches OGM. De son côté, l'Association française des biotechnologies végétales et Initiative biotechnologie végétale, autant vous dire pas des potes, dénonce, je cite, une nouvelle atteinte à la liberté de rechercher dans notre pays et un nouveau coup bas porté à notre agriculture qui a besoin d'innover pour renouveler les défis alimentaires et environnementaux et demande au gouvernement une attitude ferme contre les militants anti-OGM pour garantir la liberté de la recherche.
J'imagine qu'ils doivent relever des sacrés défis environnementaux.
Ouais, c'est ça. Bon, ça donne un peu l'impression qu'en France et dans le monde, on serait plus menacé par une bande de paysans qui va aller arracher des plantations toxiques que par des types dans un labo qui vont essayer de nous faire bouffer encore plus de merde. On a quand même un peu l'impression qu'on se fout de notre gueule. Mais ce qui est dommage pour eux, c'est que les militants sont repartis donc à 16h30 parce qu'ils ont réussi à décrocher un rendez-vous le 9 juillet avec des membres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que de l'INRA. Bon, on ne pense pas que ce rendez-vous va aboutir à grand-chose. Parce que quand même, il n'y a pas le ministère de l'Agriculture là-dedans. J'étais quand même été un peu étonné. Mais bon, peut-être quand on parle d'OGM, l'agriculture, c'est plus vraiment ça. Bref, je pense que ça va rien donner, mais en tout cas, bon, ils seront reçus, ils pourront dire leurs revendications.
Et donc maintenant, on va parler de l'occupation qui a eu lieu ces jours à l'Opéra de Lyon avec une invitée qui va un peu pouvoir nous raconter ce qui s'est passé dimanche déjà et puis dans les jours qui ont suivi.
Oui, alors, dans la présentation, du coup, je me permets de reprendre. C'est un mouvement qui est pour les précaires, les chômeurs et les intermittents. Pas que, et qui est lié aux modifications de l'assurance chômage et de l'UNEDIC, donc de fait, qui touche aussi bien le régime des intermittents et intermittentes que le régime général. On se focalise beaucoup sur les annexes 8 et 10 de ce texte, tatati tatata, en mettant, enfin, leurs médias mettent en évidence surtout les intermittents et les intermittentes parce qu'ils ont un peu, ils flippent un peu à cause des festivals qui ont lieu tout cet été. Pour autant, ça touche à peu près en fait tout le monde, puisque globalement de mémoire, il y a 86% des personnes qui travaillent qui sont en contrat à durée déterminée, ce qui veut dire que potentiellement tôt ou tard, ils risquent de passer par la case Pôle emploi, et donc de fait, ça touche ces 86% de personnes. Donc il existe depuis plus de 4 mois maintenant sur Lyon un collectif unitaire 69 qui regroupe donc des intermittents, des chômeurs et des précaires. Et ce collectif unitaire commence à faire un peu de bruit, on va dire, grâce à diverses actions qui ont eu lieu, en particulier depuis les actions sur les invites de Villeurbanne, des die-in, donc c'est où les gens font semblant de mourir, etc. Il commence à y avoir une espèce de couverture médiatique de leur presse. Et du coup, il y a des AG tous les deux jours, où tous et toutes sont les bienvenus. Enfin, tout ça, ça peut se suivre sur le site collectifunitaire69@tumblr.com de mémoire. Et donc, il y avait une AG dimanche dernier, le soir, vers 18h, à l'Opéra. À l'issue de cette AG, il a été décidé de faire l'occupation de l'Opéra. Alors, l'occupation de l'Opéra, c'est pas décidé comme ça, machin. On avait quand même des revendications pour, avant d'en arriver à l'occupation de l'Opéra. Les revendications étant les suivantes: que l'amphithéâtre de l'Opéra, qui soit en sous-sol, soit accessible aux horaires d'ouverture pour pouvoir discuter, etc. D'avoir un lieu aussi dans l'Opéra pour pouvoir faire des petites réunions, avoir un accès à Internet, un accès téléphone, et puis des photocopieuses. Que l'opéra accepte que de grandes banderoles soient déployées sur l'opéra pour qu'il y ait une certaine visibilité, et en plus c'était en face de l'hôtel de ville, donc du coup ça faisait un peu sens, puisque je rappelle que l'hôtel de ville est tenu par Gérard Collomb du parti entre guillemets socialiste, fermé guillemets. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Que le directeur de l'opéra fasse une demande auprès de Gérard Collomb pour qu'il y ait une rencontre entre Gérard Collomb, le directeur de l'opéra, et des membres du collectif à l'opéra. Et enfin, que le directeur de l'opéra produise une lettre de soutien vis-à-vis du collectif et donc des demandes des précaires, chômeurs et intermittents. Tout ça a été, dans la joie et la bonne humeur, refusé par, alors en l'occurrence, pas le directeur de l'opéra, mais son directeur administratif, monsieur Jouvin, de mémoire, voilà. Et il a proposé une espèce de placard au fond d'une ruelle sombre qui sentait la pisse. Enfin bon, bref, rien de ce qui était demandé. Donc il a été décidé de faire l'occupation du lieu pendant 48 heures. Et ben c'était sympa. Donc pendant 48 heures, un certain nombre de personnes, environ 25, à la fois, il y avait certes des intérimaires, mais des intermittents, pardon, il y avait aussi des intérimaires et des précaires et des chômeurs et chômeuses. Donc tout ce joyeux monde est resté dormir une première nuit. Le lendemain, il y a eu à nouveau une discussion avec le directeur de l'opéra, enfin pas vraiment le directeur du coup, le directeur administratif de l'opéra, qui a à nouveau dit bon bah puisque vous voulez pas de mes propositions, moi j'arrête de venir vous voir. Et qui a commencé un peu à mettre la pression en disant attention, ça va mal se passer. Toujours est-il que, en tout cas à l'intérieur, ça s'est passé dans une atmosphère bon enfant. Tout a été fait, toutes les décisions, les choix ont été faits complètement démocratiquement, etc. Qu'au bout de, donc le lundi, une première délégation a été reçue par Monsieur Kepenekian, donc Monsieur Kepenekian du parti entre guillemets socialiste, fermé guillemets, et premier adjoint à la mairie de Lyon, et aussi s'occupe de la culture. Et Monsieur Kepenekian donc a reçu une délégation qui a refait la demande dont j'ai parlé précédemment, et ce à quoi il a dit oulala, j'ai besoin de réfléchir, vous comprenez, c'est compliqué. Donc la délégation est repartie, et puis dans l'après-midi du mardi, donc le lendemain, Monsieur Kepenekian a commencé à dire mais si vous voulez, je peux peut-être vous accorder la bourse du travail, attendez, il y a moyen, blablabli, blablabla, renvoyez-moi une délégation en début d'après-midi. Donc il y a de nouveau une délégation qui était prête en début d'après-midi. Il a fini par les recevoir vers 20h, du coup a priori au parti entre guillemets socialiste, nous n'avons pas le même concept de l'après-midi, mais ça c'est autre chose. Et à qui il a dit non mais en fait c'était pas vraiment vrai. Je ne me suis jamais vraiment engagée. Bon, finalement, je me désengage de tout ce que je vous ai proposé. Merci, au revoir. Entre-temps, les personnes qui étaient à l'intérieur, ça a commencé à devenir un petit peu tendu avec la direction la direction de l'opéra et aussi avec les RG qui, je le rappelle, ne sont pas nos amis puisqu'ils représentent l'État et ce sont de bons moyens de coercition aussi, et qui soufflait le chaud, le froid, etc., prétendait qu'il y allait y avoir des gens, enfin des CRS, et en fait non, mais peut-être oui. Donc du coup, fatalement, les 20 personnes maintenant qui restaient à l'intérieur de l'opéra ont commencé à sentir un peu le stress, etc., et ont préféré effectivement sortir de l'opéra plutôt que de se faire vider par les bleus pour des raisons de sécurité et de choses comme ça. Donc l'intérêt de cette occupation, c'est petit 1 que le directeur administratif, en tout cas de l'opéra, a lui expliqué qu'il était pour cet agrément, donc ce fameux truc de l'UNEDIC et compagnie. Donc ça avait sens qu'on soit à l'intérieur de l'opéra. L'intérêt de cette occupation, c'est aussi que ça a permis de mobiliser un peu plus de monde que ce qui avait été fait précédemment sur les invites et compagnie. L'intérêt aussi, c'est que bah, y a eu un petit retentissement léger dans leur presse, et aussi que ça a reboosté, mine de rien, les copains et les copines qui militent dans d'autres villes, comme Montpellier, à Dijon, à Paris et à Valence, parce que à Lyon, on est connu pour être méchamment frileux quand il s'agit de faire des choses, que ce soit pour ce type de mouvement ou pour d'autres. Donc tout ça, en fait, avait quand même, mine de rien, un super intérêt, même si au final, mais en même temps, on a un certain nombre d'entre nous à s'en être douté, on s'est bien fait bananer par la mairie de Lyon et son représentant, Képenikian. Voilà.
Ben, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Merci. Sunrise by sinning by virtue, fool. What have you made if you gain the whole world but sell your own soul for the price of a pole? The world is my oyster and I am starving. I want much more than a... Alors, les députés ont adopté hier le projet de réforme ferroviaire. Bon, pendant qu'ils adoptaient ça, il y avait un millier de cheminots qui étaient rassemblés à proximité de l'Assemblée nationale. Le texte doit encore passer devant le Sénat. Ça devrait être les 9, 10, 11 juillet. Voilà, ça a été adopté par 350 voix pour, 160. En tout cas, enfin, le nombre de voix, on s'en fout, mais il faut savoir que le PS a voté pour, l'UDI a voté pour, et les Verts ont voté pour, et il semble que le Front de gauche et voté contre avec l'UMP. En tout cas, au moment de l'examen du texte, les parlementaires ont adopté plusieurs amendements, dont un qui venait du Front de gauche et qui fait de la SNCF l'employeur unique dans le futur système. Alors ça, c'est même à se demander si ça n'a pas été un peu un piège pour le mouvement, cette histoire, parce que c'est à partir du moment où cet amendement a été adopté que le mouvement de grève a commencé à s'essouffler, que, en tout cas... comment il s'appelle, le nouveau chef de la CGT?
Est-ce que je peux me permettre? Ouais, apparemment, le canard enchaîné dit que tu as raison. Et selon le canard enchaîné, ce serait il y aurait eu des négociations à l'avance entre le Parti Socialiste et la CGT qui auraient prévu à l'avance de lâcher les amendements... en disant comme ça vous pourrez bomber le torse machin, et
parce
puis
que ça ressemblait vraiment à ça le jour où...
Et bah t'es trop fort parce que le canard enchaîné par ses enquêteurs fins a trouvé la même chose que toi.
D'accord,
mais ne serais-tu pas enquêteur au canard enchaîné?
Là, je dois dire que non.
Depuis que tu roules en Mercedes.
En tout cas c'est ça, c'est que à partir de ce jour-là, Guillaume Le Pen a dit voilà, alors maintenant on a quand même obtenu le principal. Et d'ailleurs, la plupart des assemblées générales ont voté la reprise du travail, ce qui était complètement faux. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on a pu entendre tous les jours à la radio ou quoi que 90% des TER circulaient. Bah, je sais pas si vous avez essayé de prendre un TER pendant ces jours où 90% des TER circulaient, mais moi j'en ai trouvé 10% qui circulaient et encore c'était des bus.
Putain, ils ont foutu des bus sur les rails.
Ouais, c'est ça. Et non, mais c'est ça. Et après, ils ont fait cette espèce de tactique là, de dire le mouvement est mort, le mouvement est mort, le mouvement est mort, de le répéter tout le temps. Et ceci dit, maintenant que ça a été voté, il semble effectivement que cette fois-ci, la plupart des trains circulent, même si la grève a été reconduite au moins jusqu'à ce soir 19h. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? Ah oui, bah, dans les autres amendements qui ont été adoptés, il y a un amendement qui vient des Verts et qui entérine le caractère indissociable et solidaire des trois entreprises que sont maintenant devenues la SNCF. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire. En fait, a priori, ça ne veut rien dire. Mais il semble que ça ne veut rien dire. Mais voilà. Ah oui, parce que... On se souvient quand même que un gros enjeu de cette histoire, c'est que jadis, il y avait la SNCF. Plus tard, il y avait la SNCF et Réseau Ferré de France.
et que les cheminots, eux, ils voudraient bien qu'il y ait une seule entreprise, un peu aussi dans cette idée de service public, en fait, la SNCF, c'est le truc qui gère tout, les chemins de fer et tout ça en France. Et que là, la réforme fait plutôt qu'il va y avoir trois trucs différents. Donc, d'un côté, les gens qui font rouler les trains, de l'autre côté, les gens qui prennent soin du réseau, et puis un troisième truc pour chapeauter tout ça, mais avec des relations compliquées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a autre chose qui aurait pu être abordée à cette occasion, c'est les 40 milliards d'euros de dettes de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Et là, en l'occurrence, non, il n'en a pas été question du tout, en aucune manière, ni dans le projet initial, ni dans le texte une fois amendé. Il y a eu quoi que ce soit là-dessus. On a juste voulu stabiliser le montant de la dette. Et du coup, il y a un gars du front de gauche là qui dit les gains de production pour que la dette n'augmente pas. Du coup, il va falloir que ces trois entreprises fassent de la thune pour rembourser cette dette par leurs propres moyens. Et du coup, ça devrait avoir des conséquences, explique-t-il, sur les salariés, les usagers et les investissements. C'est-à-dire, pour être clair, les salariés seront moins payés, les usagers payeront plus cher. Et les investissements, ça veut dire que les voies seront moins réparées et qu'il y a des trains qui vont dérailler. Oui, du coup, pendant ce temps, il y avait un rassemblement de cheminots, ils étaient à peu près un millier. Alors eux, ils comptent encore se battre au moment des négociations sur la convention collective. Mais après, voilà, quoi, il y a un syndicaliste là qui était interviewé par l'UMA qui dit la bataille sur le cadre social n'est pas terminée, mais la bataille la plus symbolique, celle de la structure de notre entreprise historique, est perdue.
Alors, quand il y a des trains qui circulent, on est content qu'ils soient propres. Et là.
Ouais, t'as bien raison.
Là, il y a aussi la grève des salariés de la professionnelle du nettoyage à la direction régionale de SNCF à Lyon. Et du coup, c'est un appel que j'ai trouvé sur Rebellion du syndicat du nettoyage CNT Solidarité Ouvrière. Et donc, en gros, c'est depuis le 16 juin 2014. Les salariés sont en grève et eux, ils assurent la sous-traitance de l'entretien de la direction régionale de la SNCF et de ses annexes. Et pour seule réponse, depuis 8 jours, du coup, la direction a envoyé des huissiers pour faire pression sur les salariés en lutte. Et aujourd'hui, ils réécrivent un communiqué et des revendications par rapport à leur lutte. Donc ils ont besoin de solidarité, c'est possible d'aller les voir, de passer ces APRH dits cours de Verdun. Et sinon, donc, c'est leurs revendications, je ne vais pas les lire toutes, mais c'est juste, ils dénoncent des mauvaises conditions de travail, le non-respect des obligations légales de l'employeur, donc... C'est des trucs de base qu'ils demandent et qu'ils devraient bien obtenir.
Et en tout cas, un peu une grosse dédicace à eux, parce que c'est hyper chaud de faire grève. C'est chiant de faire grève en règle générale, mais eux, c'est quand même, pour la plupart du temps, c'est du travail de nuit. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de s'organiser de nuit parce que souvent, genre les permanents syndicaux et tout ça, tout le monde dort au moment où eux, ils travaillent. Du coup, c'est hyper compliqué, parce qu'en plus de ça, il y a la fatigue qui s'ajoute et tout. Et en plus, c'est vraiment, vraiment, vraiment des conditions de travail de merde. Ouais. Du coup, bon courage à vous et lâchez rien. Ah, c'est à moi, pardon.
Oui, j'essaie de faire un petit signe.
Ça fait deux fois. Ok, bon, et ben c'est pas grave. Alors, c'est une info qui date un peu, mais elle est quand même assez drôle, et c'est les pompiers qui ont dû intervenir dans une barre HLM dans la cité de province à Laxou, près de Nancy, car un locataire avait une infiltration d'eau venant de l'appartement au-dessus. Bon, là, vous vous dites qu'ils ont à foutre des problèmes d'infiltration d'eau dans un journal. Bon, on sait jamais, ça peut vous intéresser. Sauf que les pompiers ont eu la surprise de découvrir dans l'appartement juste au-dessus du locataire, qui avait été laissé à l'abandon par l'organisme HLM Batigère, et ben qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Une piscine.
Alors l'appartement était squatté en toute discrétion et des jeunes y ont installé une piscine de plus de 6000 litres quand même. Ça fait une bonne piscine.
Pas mal. Quoi.
Ça fait, je sais pas si vous voyez, là, c'est quand même pas les petites piscines où on peut patauger dedans.
C'est pas les piscines à boudin, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est quand même les piscines avec un peu des piliers, tout ça.
Attends, mais ils ont fabriqué une piscine à l'intérieur de l'appartement, ils ont pas juste inondé l'appartement.
Non, ça, ils avaient pas encore inondé l'appartement, non.
D'accord.
Non, c'était une vraie piscine et tout, machin. Donc tout ça, bien sûr, pour se rafraîchir par les fortes chaleurs qui courent en ce moment en France et même à Nancy, a priori. Le plus drôle dans tout ça, c'est que les pompiers ont dû vidanger la piscine, bien sûr, avec une pompe, hein, ils sont pas allés au seau. Et entre le moment où les pompiers avaient fini leur job et que Batigère est venu condamner l'appartement, et ben, du coup, Batigère est allé condamner, aller pour condamner l'appart, confisquer la piscine, sauf que la piscine, et ben, elle avait disparu dans la nuit. Et il se murmure dans le quartier que la piscine aurait trouvé un nouvel appartement vide.
Des sous-traitants de Carrefour esclavagistes. Donc c'est des centaines de milliers de migrants d'origine cambodgienne et birmane qui sont recrutés de force sur des bateaux en Thaïlande. Donc ces bateaux industriels pêchent les poissons qui seront transformés en farine pour nourrir les crevettes élevées par l'entreprise Khaoren. Oh là là. Ah, donc par l'entreprise CP Foods, on n'aurait qu'à l'appeler, c'est plus facile. Et donc les CP Foods sont les leaders du secteur. Elle produit 10% des 500 000 tonnes de crevettes bon marché exportées chaque année par la Thaïlande pour alimenter la demande galopante des consommateurs occidentaux. Parmi ses clients, les géants mondiaux de la grande distribution, donc Carrefour, mais aussi Walmart, Aldi et Tesco. Et ça a été révélé par une enquête du Guardian qui se base sur des centaines d'entretiens avec différents acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Donc ces migrants sont soumis à des conditions de travail et de vie d'une violence extrême. Donc journée de 20 heures, torture et assassinat sommaire, ouvriers enchaînés pour les empêcher de s'évader, absence de paix pendant des mois, fourniture d'amphétamines pour tenir le coup. Donc c'est vraiment vraiment trash et souvent ils sont vraiment amenés de force sur les bateaux. La Thaïlande est de plus en plus montrée du doigt sur ce sujet. On estime à près de 500 000 le nombre d'esclaves dans le pays, pour la plupart des immigrés issus de pays voisins. Et le secteur de la pêche à lui seul emploie environ 300 000 personnes, dont 90% de migrants. Donc, comment réagit Carrefour, Aldi, ce genre de grande chaîne face à ces révélations?
Ils ne réagissent pas.
Et non, la réponse de l'entreprise est malheureusement révélatrice de l'irresponsabilité des grandes marques qui utilisent ces longues chaînes d'approvisionnement internationales. Donc, l'entreprise déclare avoir réalisé un audit social en juillet 2013. Dans l'usine CP Food où elle se fournit, mais sans rien constater d'anormal. Et elle dit ne pas avoir. Elle admet qu'ils n'ont pas le temps de tout regarder et que, comme c'est une entreprise complexe avec différents niveaux, qu'ils ne sont pas allés voir sur les bateaux comment ça se passait. Ouais.
Le temps, c'est de l'argent.
Et puis on ne peut pas avoir les prix les plus bas dans des airs, hein, on ne peut pas tout regarder comme ça.
Bah oui, non, mais je pense qu'ils les ont fait s'arrêter au buffet avant d'aller visiter le bateau.
Avec
et puis le
de mauvaise qualité.
Voilà.
Ils étaient malades, ils étaient aux toilettes, c'était fini.
Voilà. Et de l'autre côté, donc suite aux révélations du quotidien britannique, Carrefour s'est empressé d'annoncer qu'elle suspendait unilatéralement toute relation commerciale avec CP Foods. CP Foods n'est pas la seule entreprise à faire ça. Et cette attitude rappelle celle adoptée par Carrefour et Auchan concernant la filière textile suite à la catastrophe du Rana Plaza au Bangladesh.
Bon, vous en avez très certainement entendu parler. Le soir de la victoire de l'Algérie face à la Corée du Sud pour la Coupe du Monde, plusieurs scènes de joie ont éclaté un peu partout en banlieue, en ville, et notamment dans le quartier de la Guillotière. Et scènes de joie qui sont finies comme il se doit par des affrontements avec les flics. Sauf que les flics ce soir-là se sont déchaînés. Une vidéo du soir même a fait le tour du web où on voit un homme à terre sur le pont Wilson entouré de flics et se prenant un violent coup de pied dans les côtes, a priori, alors qu'il ne bougeait plus, il était à terre. Voilà. Une autre vidéo montre un gars de 18 ans avec des traces de coups sur le visage. Lui explique qu'il n'a même pas vu le match et qu'il rentrait du ciné avec sa copine, ce qui semble plutôt crédible, parce qu'après avoir été, s'être fait passer à tabac par les flics, il a été relâché et jamais inquiété, ni conduit en garde à vue, ni rien du tout. La première vidéo montrant un homme se prenant un violent coup de pied a fait du bruit dans les médias et a contraint le procureur d'ouvrir une enquête pour comprendre les circonstances, comme ils disent. Il a décidé ça ce matin. Le policier responsable du coup de pied déclare se tenir à la disposition des enquêteurs. Preuve pour lui qu'il a confiance dans ses hiérarchies pour couvrir ce genre de bavure. Tout ça n'a pas empêché le préfet à appeler la police à faire preuve de fermeté jeudi soir lors du match France-Algérie. Il a même déclaré, je cite, ce sera tolérance zéro, que ceux qui veulent essayer viennent voir, ils ne seront pas déçus. Effectivement, quand on voit la vidéo, voilà. Ah oui, les flics d'ailleurs ce soir-là dont on ne sauront pas trop où donner de la tête car les fachos appellent à un rassemblement en place du pont jeudi soir. Bon, eux ils font un peu les gros bras sur Facebook, mais il y a quand même de grandes chances qu'ils se fassent encadrer par les flics pour se faire protéger. En tout cas, une forte présence policière est à prévoir jeudi soir place du pont, amis sans pape, méfiance.
Vincennes, rendu du procès suite aux révoltes du 14 février. Donc après plusieurs mois d'attente, le juge Patrick Ramael a finalement rendu le délibéré de l'audience du 31 mars qui mettait en cause donc 5 personnes accusées d'avoir tiré des feux d'artifice devant le centre de rétention de Vincennes suite à une révolte dans le centre. Donc les inculpés, en refusant de s'exprimer sur leur présence ou non au rassemblement, ont laissé juge et procureur avec un dossier vide. Ce dernier a donc dû s'aligner sur l'avocate de la défense en demandant la relaxe pour l'accusation de participation avec arme à un attroupement, parce qu'en effet, ce délit est avéré seulement dans le cas, logiquement, où une personne est porteuse d'une arme dans un attroupement, et non lorsqu'elle est dans un attroupement où il y a des armes. Et donc, comme aucune arme n'a été retrouvée sur les 5 au moment de l'interpellation, l'accusation ne tenait pas. Le PROC avait également demandé la relaxe pour le refus d'ADN car aucun PV n'indiquait que la demande ait été faite par les flics. Et concernant le refus d'empreintes et de photos, il avait requis des amendes. Donc le juge a suivi ses réquisitions en prononçant la relaxe pour l'attroupement et l'ADN et des amendes pour les empreintes qui vont de 200 à 500 euros. Donc on peut dire que les gens se sentent plutôt pas mal dans cette histoire.
Ah oui, c'est à moi. Chacun son tour de rater son tour. Donc, on va revenir rapidement sur la répression sur la ZAD. Donc, moi, je suis là pour un peu situer le contexte et après, on vous racontera des nouvelles. Donc, il y a eu une manif le 22 février qui a donné... il y avait plutôt du monde, 50 000 personnes selon les organisateurs, et qui s'est tenue dans la joie et la bonne humeur. La joie et bonne humeur qui est un peu débordée à des moments... notamment sur les policiers en faisant des taches de peinture. Toujours est-il que ces petits débordements de joie et de bonne humeur ont donné lieu à quelques blessés, dont 3 personnes qui ont perdu un œil et une douzaine d'arrestations sur le coup. Fin mars, donc à peu près un mois plus tard, une personne était arrêtée, donc elle s'appelle Enguerrand apparemment, et a pris un an de prison ferme pour avoir utilisé un fumigène qu'il avait fabriqué. Depuis, donc, il y a des personnes qui ont été régulièrement arrêtées, on en est à une dizaine, donc il y en a qui ont été arrêtées au pied du lit, donc avec perquisition à 6h du matin et compagnie, d'autres ont été arrêtées dans la rue, une personne a été arrêtée
après un contrôle routier, une autre après une histoire, une sombre histoire de vol. Je bouge trop la tête, mais parce qu'il faut que je lise mon texte en même temps. Donc voilà, tous ces gens sont passés en comparution immédiate la plupart du temps. Enfin non, tous en fait, ils sont passés en comparution immédiate. La stratégie que semble adopter la DCRI et les flics qui mènent l'enquête, c'est de ne pas faire faire le moins de bruit possible sur ces arrestations. Donc voilà, la caisse de solidarité dans ce contexte tient à rappeler que des photographies ne constituent pas une preuve irréfutable, que même si on vous présente une photo, vous n'êtes pas obligé de dire que vous vous reconnaissez et le juge ne sera pas obligé de vous reconnaître. Il rappelle aussi qu'à Lyon, le seul moment où ça a été utilisé, c'était pour les émeutes en 2010 et que les juges n'avaient pas trop apprécié et donc avaient relativement souvent relaxé les personnes dont les seules accusations étaient une photo. Il rappelle que la demande d'un avocat conseil est toujours conseillé après en cas d'éventuelle garde à vue et qu'il est utile de contacter le collectif juridique, notamment qui à la ZAD s'occupe de casser toutes les affaires, non,
rassembler
toutes les affaires, merci.
Alors si la caisse de solidarité rappelle tout ça, c'est parce que là les gens de la ZAD, eux, ils ont l'analyse que c'est un petit peu exceptionnel suite à cette manifestation qui est autant d'arrestations a posteriori, c'est-à-dire c'est pas des gens qui sont arrêtés pendant la manifestation, qui se font arrêter en train de casser des trucs, ou même à proximité d'un endroit où il y aurait eu des trucs pétés, puis accusés d'avoir pété ces trucs. Mais là, c'est des arrestations qui surviennent des mois et des mois après la manif. Qu'il y a effectivement des gens qui ont pour lesquels la seule accusation a consisté en une photo, et qui était une photo d'une personne masquée, cagoulée, qui sortait d'un magasin avec un fumigène à la main. Et là, du coup, les flics ont dit « Ah, vous voyez, c'est lui », mais en fait, c'était juste quelqu'un habillé en noir, quoi. Là, en l'occurrence, pour cette histoire, le juge a trouvé que « Ah oui, tiens, effectivement, c'était très évidemment lui ». Donc le juge peut ne pas vous reconnaître, mais le juge peut aussi vous reconnaître, ça peut arriver. Parfois contre toute évidence. Et là, il y a entre autres aussi une petite histoire un peu inquiétante, disons, sur des gens, alors pareil, qui ont été arrêtés à Nantes, là. Donc c'était hier, c'était suite à un contrôle de la BAC, un contrôle soi-disant de routine. Et du coup, après 48 heures de garde à vue, ça devait pas être hier, ça devait être le mardi précédent. Il y a 4 de ces personnes qui ont été inculpées de recel. Alors bon, voilà, il y avait une histoire de vol de lampe frontale, je ne sais quoi là, de refus d'identification, donc signalétique et ADN, et surtout, elles ont été accusées d'association de malfaiteurs. Et il semble que ce qui constituait l'association de malfaiteurs, ça a été le fait que dans leur voiture, il y avait des affiches d'appel à un rassemblement pour le 19 et le 27 juin et une boîte à outils. Et que la présence dans la voiture de ces deux éléments en même temps, ça constituait la preuve qu'ils étaient en train de commettre une association de malfaiteurs. Mais c'est-à-dire en gros que les malfaiteurs, c'est juste les gens du côté de Nantes qui militent pour la ZAD, quoi, parce que malfaiteur en soi, avoir des affiches qui appellent à un rassemblement.
Sachant que c'était un rassemblement de soutien devant un tribunal pour des gens qui allaient passer. C'est dans les procès des histoires que je vous ai racontées juste avant.
Ouais, voilà. Et du coup, mine de rien, association de malfaiteurs, ça veut quand même dire potentiel. Bon, alors, on verra ce que ça donne dans la réalité, hein, mais en tout cas, dans le code, ça peut vouloir dire jusqu'à 5 ans de prison. Le ministère public a demandé le maintien en détention provisoire pour 2 des 4 personnes. En argumentant l'absence de garantie de représentation pour une de ces personnes et le passé activiste de l'autre. Bon, finalement, le juge en a gardé un en détention provisoire et a libéré les 3 autres avec contrôle judiciaire et interdiction de présence en Loire-Atlantique, et ce jusqu'à leur procès qui aura lieu le 18 juillet.
La nuit, la police ne s'ennuie pas. La nuit, la police parisienne fiche la moralité des patrons de bars et de leurs clients. Alors, c'est une info qui sort du Parisien de lundi. C'est un document interne à la préfecture de police qui recense des informations sur la supposée moralité des exploitants de bars, de nuit ou discothèques et de leur clientèle. Donc, le formulaire émane du service de police chargé d'accorder ou non les autorisations d'ouverture de nuit au-delà de 2 heures. Donc, les policiers, les flics prennent un petit calepin, prennent ce petit formulaire, prennent un petit crayon et vont rôder autour des bars. Et qu'est-ce qu'ils regardent ? Donc, ils regardent différents trucs, quoi. Par exemple, dans ce formulaire, au lieu de parler de patron de bar, il parle de tenancier. Vous voyez, ça fait très siècle dernier, tout ça.
C'est la prohibition.
Et donc, il parle de moralité. Et du coup, il juge la clientèle. Alors, soit ils écrivent médiocre, soit mauvaise. Et dans le meilleur des cas, ils disent sans observation. Et quand c'est écrit médiocre ou mauvaise... c'est parce que notamment ils doivent Donc ils doivent aussi renseigner la présence de prostituées et de travestis à l'intérieur ou à proximité de l'établissement. Et donc si c'est médiocre, c'est que du coup il y a des traves, des chelous, des frics, des tapettes, des gouines, des personnes trop voyantes, trop bruyantes, voilà, qui sont dans ce bar et que le patron, vous imaginez, tolère ce genre de personnes. C'est un peu bizarre. Et donc, on voit bien qu'il s'agit de jugement de valeur de la part des flics. Et ça montre une claire discrimination envers plein de gens et de gros stéréotypes. Et bien sûr, jointe par Le Parisien, la préfecture de police se réfugiait derrière la notion de trouble à l'ordre public. En fait, ce formulaire a été mis en place pour lutter contre le trouble à l'ordre public. Mais par contre, elle ne s'explique nullement sur les critères présents dans le document pointé du doigt par le journal.
Eh bien, nous avons bientôt fini ce Canu Info et c'est le moment de le conclure par une petite météo. Jeudi, le soleil sera présent tout au long de la journée. Les températures iront de 17 degrés le matin à 28 degrés l'après-midi. Vendredi, le ciel sera voilé mais laissera place à de belles éclaircies. Du côté des températures, le thermomètre restera stable avec 18 degrés le matin et 38 degrés l'après-midi. Comment ?
Ah ouais, 38.
C'est pas mal, hein ? Non mais attends, tu vois. Samedi, toi tu t'en fous, le travail beau. Le ciel sera couvert. Il y a des chances pour que la pluie pointe le bout de son nez mouillé le matin, qui se transformera en pluie orageuse l'après-midi et dans la soirée. Bref, vous l'aurez compris, samedi c'est tout pourri, ou alors c'est dans votre lit. Du côté du thermomètre, on aura 19 degrés le matin, 28 degrés l'après-midi et les températures chuteront en même temps que la pluie, avec 18 degrés dans la soirée. Dimanche, de forts risques d'orage et les températures seront en forte baisse avec 17 degrés en début de matinée et un tout petit 22 degrés l'après-midi. La tendance pour la semaine prochaine, de fortes précipitations et des orages en perspective.
Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens, c'est de prendre leur jeudi, de faire craquer demain.
C'est ça. C'est des gens qui font grève jeudi, profitez de votre grève.
Et chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, de ne pas vous être endormis ou je vous réveille peut-être maintenant. C'était un des Canu Info les plus mous de l'histoire des Canu Info du mercredi.
On a fait pire.
Ouais, puis il y avait des bouts de punk au milieu, ça faisait un peu...
Ouais, c'était quand même très mou et parce qu'il faut que vous imaginiez qu'il fait très très chaud dans ces studios et qu'on n'a pas encore l'habitude.
En tout cas, merci. Eh ben, il est 8h55 et Et voilà, et dans 5 minutes, c'est l'heure d'Idées Noires.
À la semaine prochaine.
Nous retrouvons la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Ciao.
Invention. L'indispensable truc inutile qui résout les problèmes qu'on se pose pas, si miniature et discret qu'il faut le montrer, sinon on le voit pas. Si tu ne l'as pas encore, bravo, c'est que la pub n'est pas arrivée. À te faire entrer dans le panneau, on va bien te l'offrir sans tarder. Comme
comme j'ai pas de téléphone portable, mais que j'ai plein de potes qui en ont. Pour pas trop me faire chier à leur table, j'ai une vieille Game Boy d'occasion. Avec tes piercings au menton et aux lèvres, t'as l'air rescapé d'une partie de pêche comme un brochet, la gueule transpercée d'hameçon. Ton treillis, voilà que même les vieilles se mettent à trouver ça très chic. L'été prochain contre le soleil, et c'est donc un képi de flic. Oh, les bidules nuls et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Les bidules nuls et les machins moches, j'en ai plein le cul, on en a plein les poches. Ces trucs qu'on nous vend pour pas ressembler à nos voisins, pour être différents justement, tout le monde a les mêmes secrets. T'exagères,